SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Nous sommes le samedi 20 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français de la radio SBS. Merci d'être avec nous. Nous allons passer une heure ensemble, une heure de programme en français. Je m'appelle Marianne Murat et on commence comme tous les samedis par la rétrospective. Aujourd'hui, dans notre rétrospective, Valentine Sabourot nous emmène au lycée de Columbine, cet établissement américain tristement célèbre pour le drame qui s'y est déroulé. C'était il y a 25 ans, le 20 avril 1999. Souvenez-vous, cette tuerie perpétrée par des élèves sur d'autres élèves. La rétrospective a été élaborée par Valentine, donc avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Il tirait sur tout le monde autour de moi. Pendant au moins 10 minutes, j'ai supplié celui qui me visait de ne pas me tuer. Il tenait son pistolet devant mon visage et il s'est mis à rire. Il disait que c'était de notre faute que nous n'avions pas été gentils avec lui l'année dernière.
Ce n'est pas une histoire, mais une tragédie. Une tragédie de 58 minutes qui touche l'Amérique au cœur, puisqu'elle se solde par la mort de 12 élèves et un professeur. Nous sommes le 20 avril 1999 dans le lycée de Columbine dans le Colorado, le jour où l'établissement est la scène d'une des premières grandes tueries de masse en milieu scolaire. C'est un électrochoc pour le pays. 11h10 ce mardi, deux élèves, Eric Harris, 18 ans, et Dylan Klebold, 17 ans, arrivent séparément au lycée. Amis depuis la 5e, les adolescents amateurs d'armes et de jeux vidéo ont prévu de faire exploser la cafétéria et de tuer ceux qui réussiraient à s'échapper. Le projet est né un an plus tôt, ils en ont parlé dans leurs journaux intimes. Aujourd'hui, ils sont lourdement équipés de couteaux de chasse, pistolets, fusils à pompe et carabines qu'ils ont réussi à acheter quelques mois auparavant. Leur plan prévoit de créer une diversion via une bombe placée à l'extérieur du lycée, deux autres engins explosifs prenant le relais à l'intérieur. La première va fonctionner, pas les deux autres. Les jeunes gens décident alors de prendre eux-mêmes les choses en main. À 11h19, ils se dirigent vers l'établissement et commencent à tirer. Le drame laisse son empreinte sanglante dans la bibliothèque, les couloirs, les toilettes et la cafétéria. Les victimes semblent choisies au hasard des rencontres. Certaines peuvent partir, d'autres sont abattues de sang-froid. Les élèves qui ont pu échapper aux assaillants ont fui jusqu'à la sortie, où se sont terrés où ils ont pu. J'avais tellement peur, j'ai couru me cacher sous mon bureau. J'attendais juste qu'une balle me traverse. Vous savez, je fermais les yeux, je croisais les doigts et je m'en remettais à Dieu, racontera juste après la tuerie Josh Lapp. Par miracle, Patty Nelson, une professeure qui leur échappe, réussit à joindre le 911.
Jefferson County 911.
La police arrive à 11h24 sur les lieux, mais ce sont les deux tueurs qui mettent fin eux-mêmes au carnage en se suicidant. Il est 12h08. L'école ne sera déclarée sûre que 4h30 plus tard. Durant tout le drame, Les télévisions dépêchées sur les lieux auront diffusé en direct des images d'élèves choqués, en pleurs, certains dans les bras de leurs parents soulagés. L'ensemble du lycée est déclaré scène de crime. Le bilan final fait état de 13 morts, 2 suicides et 24 blessés. Le président Bill Clinton réagit immédiatement.
Ce soir, nous devons d'abord aux gens de Littleton, aux familles touchées par cette tragédie, de respecter le deuil qui les frappe. Il faut aussi leur laisser le temps de mener l'enquête.
Les premières conclusions de l'enquête pointeront le harcèlement dont les assaillants ont été victimes de la part de leurs camarades, l'indifférence de leurs professeurs, leur appartenance au groupe gothique Trench Coat Mafia. On cherchera aussi des motifs idéologiques, des complices. 5 ans plus tard néanmoins, le FBI conclut que Harris était psychopathe et Klebold dépressif. Les faits inspirant les cinéastes Michael Moore avec Bowling for Columbine et Gus Van Sant avec Elephant, Palme d'Or à Cannes en 2003.
Ces gamins ont tous un point commun, ils traversent une douloureuse crise d'adolescence avec chacun leurs problèmes. Ce qui fait la différence avec les deux meurtriers, c'est que eux, ils ont perdu tout espoir, toute illusion. Les autres, non.
Cette tragédie incitera par ailleurs l'Amérique à renforcer la sécurité dans les écoles et à changer les modes d'intervention des forces spéciales. Hélas, cela n'arrêtera pas la spirale de la violence. Le 12 avril 2024, le Washington Post calculait ainsi que depuis le drame de Columbine, 404 établissements scolaires américains avaient été victimes d'attaques, impactant la vie de 370 000 élèves.
La nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts.
Serveuse dans le diner à coups des pommes motel.
Elle porte un tablier qui la rend super dense. Qui danse.
MC Solar, mesdames et messieurs, sur les ondes de SBS Audio, on continue de remonter le temps aujourd'hui et cette fois on retourne en 2005, année où Maryse Condé visitait l'Australie. La romancière guadeloupéenne s'est éteinte le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans et il y a 19 ans justement, nous avions eu la chance de la recevoir au micro de SBS French. Maryse Condé avec Jean-Noël Ducasse en 2005, première partie, c'est maintenant.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire. Tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je suis née en Guadeloupe, dans un pays qui est un département français d'outre-mer. Donc la langue officielle est le français. Il y a une autre langue que nous parlons qui est le créole. Ça veut dire que nous avons accès dès l'enfance à une double forme de culture, la culture française officielle et la culture créole qui nous vient par les gens que nous connaissons, la famille, les amis, et qui est un peu plus souterraine, disons.
Donc c'est une langue officielle de la rue en Guadeloupe?
C'est-à-dire que si vous parlez, si vous écoutez parler les Guadeloupéens, ils parlent certainement beaucoup plus créole que français. Le français, c'est la langue de l'école, c'est la langue de l'éducation, c'est la langue de la radio. Et maintenant même, nous avons beaucoup d'émissions en créole, même à la télévision. Donc finalement, on peut dire que les deux langues sont parlées et se côtoient.
Donc, est-ce qu'il y a un choix linguistique? Est-ce que les gens préfèrent soit le français, soit le créole? Est-ce que, disons, l'enseignement à l'école se fait en créole parfois?
Non, pas du tout. L'enseignement, vraiment, l'enseignement, c'est le bastion de la langue française. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part des enseignants pour pour avoir ce qu'on appelle 1% de l'éducation nationale qui serait consacrée à une initiation au créole. Par initiation, c'est pas que j'entends, pas qu'on l'apprenne, tout le monde le sait, mais qu'on on écrive des petites pièces de théâtre, que les enfants racontent des contes, écrivent des poèmes aussi, libère une créativité en créole. Et malheureusement, ça n'a pas bien réussi, donc le créole est toujours resté en dehors de l'école. Mais il s'en porte quand même très bien, hein.
Mais vous...
C'est lui qui anime les chansons, c'est lui qui anime le théâtre populaire, c'est lui qui est présent dans toutes les distractions qu'on peut dire de masse, et il est certainement très vivant et très vivace.
Alors, quand vous étiez enfant, en train de grandir en Guadeloupe, est-ce que vous-même parliez créole dans la rue avec vos camarades?
Non, oui, mais enfin, moi, j'appartiens déjà à une génération un peu dépassée. Quand j'étais petite, il y avait, de la part des parents, une sorte d'autoritarisme qui voulait que l'enfant ne parle que français. Que l'enfant, pour montrer qu'il est bien élevé, qu'il a une bonne éducation, ne soit introduit que dans la culture française. Évidemment, les choses ont beaucoup changé. Et maintenant, je vois, j'entends les enfants autour de moi qui parlent à leurs parents en créole. Mais de mon temps, ce n'était pas des choses qui se faisaient.
Alors, quelles sont un peu les composantes de cette communauté guadeloupéenne?
C'est évidemment, la Guadeloupe est très petite, mais on peut dire que tous les peuples de la terre se sont réunis. Évidemment, les Indiens ont été exterminés par les découvreurs les premiers, donc il n'y a plus guerre d'Amérindiens. Mais il y a des Européens, français, anglais, espagnols, hollandais. Il y a évidemment des gens d'origine africaine, les descendants des esclaves. Il y a tout un groupe qui s'est formé de la rencontre des Européens et des esclaves, ce sont les mulâtres. Et en plus, nous avons les Indiens venus cette fois de l'Inde, et un peu d'Asiatiques. Des Annamites, des Chinois, et puis aussi, beaucoup plus tardivement, une migration libanaise, des commerçants surtout. Donc vous voyez, dans des territoires vraiment exigus, toutes les races et toutes les sentiments, mentalités, religions de la terre se sont rencontrés.
Donc c'est une communauté multiculturelle et tout le monde se côtoie.
Oui, elle n'a pas été multiculturelle sans mal. Pendant très longtemps, chaque vague d'arrivants restait un peu sur son côté à soi et se méfiait de l'autre. La dénigrait un peu, la regardait de haut. Il y avait une sorte de méfiance entre tous les arrivants. Et puis, on peut dire que depuis pas très longtemps, mais depuis peut-être une dizaine d'années, les gens ont appris comment apprendre à vivre ensemble, à se mêler et à former peut-être l'individualité créole qui est à l'aval de notre culture.
Et quelle est votre définition d'une créole ?
Simplement, justement, c'est un peu le sujet d'une causerie que je vais donner ce soir. Je crois que c'est une question d'intérieur. Avant, il y avait une définition très étroite qui disait qu'un créole, c'est celui qui est né dans l'île. Par opposition à un bossal, c'est-à-dire quelqu'un qui était arrivé, un Africain arrivé du dehors, par opposition à un blanc peut-être arrivé du dehors, il fallait que le créole soit né dans l'île. Maintenant, je pense et parle aussi une certaine langue qui était le créole. Maintenant, on dirait que la définition s'est élargie. Toute l'immigration antillaise que nous avons en France, par exemple, seconde génération des gens qui naissent à Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon, ben, ce sont comme des créoles parce que leurs parents leur inculquent une forme de culture et d'éducation qui appartient, qui leur vient de leur origine insulaire. Donc finalement, la notion d'être né est devenue beaucoup moins importante, c'est devenu une sorte de subjectivité que chacun de nous porte en lui et défend envers et contre tout.
Et quand ces personnes reviennent en Guadeloupe, par exemple, est-ce qu'elles parlent le même créole de l'époque ?
C'est-à-dire, des fois, elles ne parlent pas créole du tout. Mais nous avons appris aussi qu'on peut être un Antillais de cœur et ne pas, à cause des circonstances compliquées de la vie, ne pas parler créole, l'apprendre plus tard, l'apprendre au hasard de la vie. Mais il n'y a plus, il me semble, cette espèce de définition étroite qui voulait que l'Antillais soit celui qui est né dans l'île, qui parle créole, et puis c'est tout. On admet maintenant que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus souple, et qu'à cause de tous ces problèmes de globalisation, mondialisation, comme on dit, ben, les gens, ils naissent un peu partout, c'est pas de leur faute. Ils apprennent un peu n'importe quelle langue, on ne peut pas les définir uniquement par ces critères-là.
Marie Condé, quand vous grandissiez, qu'est-ce que l'Afrique, par exemple, représentait pour vous
Elle ne représentait absolument rien. J'appartenais à une famille où on ne parlait jamais de l'Afrique. C'est pas qu'on avait honte d'elle, pas du tout, mais il y avait une totale ignorance, méconnaissance. Il a fallu que assez grande, enfin adulte, au cours de mes études, j'aille la chercher moi-même. Mais enfin, tant que je grandissais, c'était plutôt une absence, un inconnu.
Et donc, si je ne me trompe pas, vous êtes parti vivre en Guinée, c'est ça ?
Oui. Mon premier mari était un Guinéen. Nous sommes partis en Guinée juste après l'indépendance de la Guinée. C'était symbolique, un refus de continuer à porter un masque blanc, comme dit Fanon. Et puis, essayer d'apprendre ce que le fait de la race, comme on disait alors, maintenant on ne dit plus tellement ce mot-là, la race signifiait aussi quelque chose de culturellement différent.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Sous la peau comme une enclume, parfois on me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi. Je peux être rage ou me faire sage comme une aile, libre d'être l'une comme l'autre, car je suis lune et soleil.
La voix tant reconnaissable de la chanteuse Zaz et son titre « L'une ou l'autre ». Elle n'est pas romancière mais historienne. Lucille Pétavin a publié un essai « Le coût de la virilité » dans lequel elle calcule le prix des crimes commis majoritairement par les hommes et comme solution, elle prône une déconstruction des valeurs viriles enseignées aux garçons. Nous l'avons rencontrée à Melbourne, interview.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
À l'occasion de la Nuit des idées qui se tenait à Melbourne le 1er mars, on a rencontré Lucille Pétavin, une historienne. Vous étiez là pour nous parler des fault lines. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez dit sur scène et pourquoi vous vous êtes rendue en Australie ?
Alors, je suis venue en Australie pour parler plus particulièrement de mon travail et notamment des questions d'égalité homme-femme parce que je suis experte dans ce domaine et plus particulièrement de l'étude que j'ai menée sur le coût de la virilité. C'est une approche économique, statistique, des conséquences financières de la masculinité toxique dans la société. Et à cette occasion, j'ai présenté quelques chiffres pour l'Australie.
Oui, parce qu'en mars dernier, vous avez publié un essai à ce propos-là qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Le coût, COUT, comme vous dites, c'est une question d'économie. Ça coûte combien alors la virilité ?
Alors pour la France, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Donc c'est tout à fait colossal parce que les hommes sont surreprésentés dans la violence. Alors non seulement la violence qui est faite aux femmes, mais dans tous les types de violences. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, juste pour la France, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Et les prisons sont remplies d'hommes puisque 96,3% de la population carcérale est masculine. Et tout ça entraîne des coûts pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé et puis pour la société parce qu'il y a des victimes et donc des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens. Et donc finalement, ce que j'ai essayé de calculer, c'est le surcoût que représente la violence masculine par rapport à celle des femmes parce qu'on voit que les hommes commettent beaucoup plus de faits de délinquance, de criminalité que les femmes.
Si on résume ce que vous venez de dire, c'est la société paye cher le prix de la virilité. Mais déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par virilité ? Et la société paye cher, donc là vous venez de parler des conséquences sur les victimes, sur les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, aller un peu plus loin dans votre raisonnement ?
La virilité, c'est une norme qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme. Donc c'est un idéal normatif et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique et morale, et qui pousse les hommes à adopter des comportements de dominant. Et donc des comportements de violence, de discrimination, de non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, des hommes et des femmes eux-mêmes. Et effectivement, quand on en paie un prix, alors on peut l'estimer financièrement, c'est ce que j'ai fait, mais on voit bien dans les chiffres par quoi ça se traduit dans le quotidien des citoyennes et des citoyens, par exemple. En France, il y a les violences systémiques qui sont faites aux femmes. Les chiffres montrent qu'il y a une femme qui meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Les hommes aussi paient un prix à cette virilité parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement tout au long de sa vie, par exemple en prenant des risques, ça a des conséquences très mesurables sur la vie des hommes. Par exemple, il y a des études qui montrent que déjà à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. En France, 87% des morts sur la route sont des hommes. Et si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire lié à un comportement à risque, que les femmes. Donc, ce coût de la virilité, on le paye financièrement à l'échelle de l'État, à l'échelle des impôts que nous payons en tant que citoyens et que citoyennes, mais aussi dans notre quotidien par les violences, les prises de risque, notamment commises par les hommes, que nous subissons toutes et tous, finalement.
Et donc, la moralité de ce raisonnement, est-ce que c'est de dire qu'il faudrait se comporter davantage comme les femmes ?
Exactement. Alors, c'est pas qu'une question morale, c'est une question statistique. Tout mon travail se base sur des données officielles, c'est-à-dire produites par les ministères de la Justice, de l'Intérieur. Lorsque l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes, qui représentent 51,6% de la population en France, en fait, les femmes qui sont une majorité mais traitées comme une minorité, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et cela parce que on les éduque peu ou pas à travers ces valeurs de virilité, ces valeurs de domination. Et donc effectivement, ces statistiques, si nous éduquions davantage les garçons comme les filles, nous vivrions dans une société plus riche et plus apaisée.
Alors bien entendu, là on fait des généralités, tous les hommes ne sont pas violents et toutes les femmes ne sont pas non violentes.
Alors, effectivement, il y a des femmes qui sont capables de violence au même titre que des hommes, et des hommes qui sont pacifiques et qui le restent toute leur vie. Ce que nous montrent les datas, en fait, c'est que, bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais les chiffres nous montrent que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, c'est vrai dans tous les contextes, quelle que soit la zone géographique, la tranche d'âge, le milieu social, le niveau d'éducation. En fait, le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, c'est le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête, parce que bien souvent, nous donnons des explications à la violence qui sont erronées. Bien souvent, nous allons par exemple expliquer la violence par la pauvreté, la discrimination, le contexte social, etc. Alors je ne dis pas que ces facteurs ne peuvent pas jouer un rôle, mais ce que l'on voit, c'est que les femmes aussi vivent dans la pauvreté, les femmes aussi vivent des discriminations, et même plus que les hommes si on prend en compte par exemple les écarts de taux d'emploi ou les différences de salaire. Et puis au niveau des discriminations, j'ai envie de dire que le sexisme quand même, 50% de la population le subit. Eh bien, dans une même situation, dans un même contexte social, les femmes commettent peu ou pas de violence comparée aux hommes. Donc ce n'est pas tous ces critères qui expliquent la violence. Et c'est pour ça qu'il faut avoir bien en tête, finalement, ce premier critère du sexe masculin qui définit le profil des délinquants et des criminels, pour justement viser les véritables origines de la violence et pouvoir imaginer un jour des solutions pour vivre dans une société plus pacifique.
Et justement, avec l'évolution de la société, on est en 2024 aujourd'hui, vous trouvez que ça va dans le bon sens ?
Ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a effectivement des changements. Lorsque je donne des conférences auprès des jeunes générations, je vois qu'ils sont plus au fait des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, de sexisme, etc. Par contre, il y a une étude du HCE qui est sortie en France très récemment, qui montre que finalement, même si ces jeunes générations sont plus au fait de ces questions-là, le sexisme est bien prégnant, et sur certaines questions, même plus que les anciennes générations. Donc, c'est quand même pas très bon signe. Et le problème, c'est que finalement, cette culture de la virilité, on voit aujourd'hui que la violence, elle s'exprime toujours de façon très importante et de façon très rapide dans l'éducation des garçons, avec les jeux qu'on va leur donner. Par exemple, en France, il faut savoir que dans les catalogues de jeux, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et juste ça, comment est-ce qu'on peut ne pas remettre en question que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ? Et puis, dans les films, le fait qu'encore aujourd'hui les héros qui s'adonnent à une violence qui est bien légitime souvent pour sauver le monde sont des hommes. Et les études montrent qu'il y a une appétence de la part des garçons pour cette violence, une identification à ces héros. Voilà, et on voit comme ça, pour ne citer que ces quelques exemples, que tout au long de la vie des garçons, il y a une acculturation à la violence et au rapport de domination. Et là, sur cette question par rapport aux violences que les hommes commettent envers les femmes, il y a un véritable apprentissage du mépris du féminin. Et ça, on le fait de façon systématique et on le fait toujours. C'est-à-dire que très tôt, on apprend aux petits garçons que être un homme, c'est surtout pas être une femme. Donc surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture trop efféminée. Quand on va les comparer aux filles, on va leur dire tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille. Donc voilà, ça va être de l'humiliation, et les petits garçons vont comprendre très vite que le féminin est inférieur au masculin, et cela crée inévitablement des comportements sexistes in fine. Donc je pense qu'à toutes les strates de la société, dans la famille, dans la culture, nous avons à enseigner d'autres valeurs aux petits garçons pour que in fine la violence baisse.
Mais dernière question pour vous, c'est le travail des politiques, des parents, des enseignants ?
Alors c'est le travail de toute la société. Je sais que ça peut paraître colossal et souvent on me dit « mais on va jamais y arriver ». Effectivement, les changements de mentalité sont toujours longs. Mais pour d'autres sujets, on peut voir quand même que les sociétés, elles peuvent avancer et avancer très vite. Alors sur les questions d'écologie, ok, ça a pris quelques temps, c'est pas parfait, mais enfin aujourd'hui on sait tous ce à quoi ça correspond. Prenons notre exemple, le Covid. En un claquement de doigts, du jour au lendemain, nous avons toutes et tous été confinés, avec des changements de mentalité, par exemple sur le télétravail, parce qu'en France, c'était quelque chose qui était très mal vu, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, du jour au lendemain. Donc, quand on veut, on peut. En plus, j'ai envie de dire, la solution, c'est ce que je disais, on l'a sous les yeux, on l'a, l'applique déjà pour la moitié de la population, à savoir les filles, donc faisons-le aussi pour les garçons. Après, oui, on est d'accord que ça se joue à toutes les strates. Ça se joue, les parents ont une responsabilité, l'école a une responsabilité, le milieu culturel a une responsabilité, les politiques ont une responsabilité, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Là, on a justement, les statistiques pour nous, les conséquences financières. Voilà, on ne peut plus fermer les yeux sur cette réalité. Donc, allons-y.
Lucille Pétavin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît.
C'était Multicolore d'Emma Peters qui fait partie de notre sélection musicale du mois d'avril. Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas, ils débuteront dans 3 mois. La flamme a commencé son périple dans un contexte de polémique autour de la cérémonie d'ouverture, mais aussi de la sécurité lors de la compétition. Pour autant, les préparatifs s'accélèrent, notamment les lieux qui accueillent certaines épreuves. C'est le cas du Grand Palais, actuellement en pleine restauration. Le majestueux édifice parisien accueillera l'escrime et le taekwondo. Mais ce n'est pas la première fois que ce chef-d'œuvre architectural rencontrera les Jeux Olympiques. La dernière fois, c'était il y a 100 ans, en 1924. Reportage RFI, signé Laurence Théo.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Il y a tout d'abord cette sensation d'être tout petit sous un gigantesque parapluie métallique. La nef est immense, sentiment partagé par Daniel Sancho, le directeur du projet de restauration du Grand Palais. Il porte casque et gilet de chantier et lève les yeux au ciel.
Un volume fou, on est à 35 mètres de hauteur sur les parties courantes, on monte jusqu'à 45 mètres en partie centrale, 13 000 mètres carrés. L'architecture industrielle, c'est vraiment l'usage du métal, au maximum de ses capacités. Voilà, une charpente extrêmement élancée pour l'époque, c'est l'usage du rivet. Donc on a quelque chose d'extrêmement sophistiqué, techniquement, d'un point de vue industriel.
La charpente de fer pèse 6 000 tonnes, le poids de la tour Eiffel, et la verrière est la plus grande d'Europe. Créé en 1900 pour l'exposition universelle, le Grand Palais n'a cessé d'accueillir les grands événements. Dans les archives, le salon de l'auto.
Là, notre visiteur, parmi les moteurs, pourra faire d'utiles constatations sur les progrès de la technique française.
Grâce aux travaux, la nef a retrouvé sa grâce aérienne, la splendeur de sa dentelle métallique et la transparence de sa verrière. Un écrin olympique pour accueillir dans un premier temps les épreuves d'escrime. On ferme les yeux et on imagine.
On met en place le terrain de jeu au milieu, des gradins pour 8000 personnes. On a les espaces servants autour. Sous l'escalier d'honneur, il devrait y avoir la tribune des juges. On voit bien, si on la dimension de cet espace, 13 000 m² par rapport aux attentes d'un grand événement sportif sont totalement cohérentes.
Seul petit écueil pour filmer l'escrime, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière. Il faudra donc l'atténuer avec un léger voilage tendu en sous-face de la charpente. L'escalier d'honneur, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, fera également partie du spectacle puisque les athlètes l'emprunteront lors des finales. Au cours de la rénovation, il a fallu retrouver sa couleur d'origine.
On fait les études classiques stratigraphiques, retrouver les traces pour aboutir à cette peinture-là qui est maintenant en place. Alors, comment la qualifier, marron, canon de fusil. C'est une peinture beaucoup plus sombre qui met vraiment en valeur les formes de l'escalier. On voit les reliefs apparaître, des volutes dans tous les sens, des fûts en porphyre, des éléments en bronze qui sont accrochés à ce porphyre, qui ont été restaurés aussi. Donc quelque chose d'extrêmement délicat. Voilà, l'ouvrage retrouve ses qualités d'origine, ses couleurs d'origine.
Dans quelques semaines, le cliquetis des fleurets remplacera le bruit des marteaux-piqueurs.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Devenu celui que tu voulais être, ton corps maintenant est à la roue, ma peau de daronne, comme avant. Dans ma peau de daronne.
C'était Daronne de Gilles Kaplan. Allez, pour terminer cette émission, messieurs, dames, un épisode de notre podcast L'Histoire cachée de l'Australie. Notre collègue Grégory Place et l'historien Romain Fati s'intéressent à l'avocat, un fruit originaire d'Amérique centrale qui a fini par occuper une place prépondérante dans la gastronomie australienne. Première partie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un fruit originaire d'Amérique centrale, mais qui est devenu essentiel et partie prenante de la gastronomie australienne. Il s'agit de l'avocat. Alors pour en parler, comme d'habitude, nous retrouvons aujourd'hui Romain Fati, historien depuis peu à l'Australian National University de Canberra. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Alors, je le disais, l'avocat aujourd'hui est vraiment un élément qu'on retrouve dans quasiment les menus de tous les restaurants et les cafés d'Australie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Cet engouement est d'ailleurs assez récent. Mais tout en disant ça, j'ai pu voir que dès le 19e siècle, on a planté des avocatiers en Australie, et plus précisément au Botanic Garden de Sydney.
Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par un peu d'histoire assez lointaine. C'est un arbre qui est cultivé pour ses fruits depuis la période précolombienne, en réalité, donc en Amérique centrale, ou dans ce qu'on appelle le Mexique aujourd'hui, depuis près de 9000 ans, selon les archéologues. Et donc, c'est connu depuis assez longtemps et parmi de nombreuses civilisations. Et quand on se penche sur l'histoire coloniale australienne à partir de l'arrivée de la première flotte en 1788, c'est finalement assez peu de temps après, au siècle suivant, que certains expérimentent et font importer des pousses ou des greffes, en réalité, d'avocatiers. Et donc, si on regarde un peu les archives, ça se passe surtout au niveau de ce qu'on appelait alors les sociétés d'acclimatation. Hein, vous savez, les agriculteurs cherchaient à pouvoir utiliser la terre qu'ils avaient colonisée de façon, entre guillemets, productive, et donc s'intéresser à, voilà, maintenant on a cette nouvelle terre qu'on appelle l'Australie, qu'est-ce qu'on peut y faire pousser une fois qu'on a mis des moutons partout. Et donc, en 1864, un certain monsieur Romsey, d'Ipswich, à côté de Brisbane, écrit à la société d'acclimatation de Queensland que son arbre, qu'il a importé de Jamaïque il y a déjà 7 ans, pousse très bien, se porte très bien, et donc en fait ce qu'il signifie c'est que voilà, pourquoi pas développer cette culture-là. Et à peu près au même moment, au début des années 1870, dans le jardin botanique de Sydney, que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est assez magnifique, il y a déjà des avocatiers plusieurs d'ailleurs, qui portent des fruits. Donc, les Australiens réalisent que c'est un arbre qui peut s'acclimater dans certains endroits de l'Australie et qui pourrait donc porter ses fruits très littéralement et devenir un des fruits qu'on pourrait trouver sur place. Parce que ce qu'il faut bien se dire aussi pendant la période de colonisation de l'Australie, c'est que nourrir les habitants qui colonisent le pays, c'est une vraie question. Quand vous êtes si loin de Londres et si loin de la Grande-Bretagne et d'autres marchés, vous êtes obligé de produire de la nourriture sur place. Et donc, tant qu'à produire de la nourriture, autant qu'elle soit bonne, et puis surtout que ça produise beaucoup. Et on sait que les avocatiers peuvent donner de très bonnes récoltes.
Oui. Toujours est-il que, d'après ce que j'ai pu voir, la production des avocats reste assez marginale pendant très longtemps, jusque dans les années 60-70 environ. Et puis, on fait arriver une variante qui est actuellement celle qui est la plus commune, qu'on trouve dans tous les supermarchés, l'avocat dit HAS, H-A-2-S. Qu'est-ce qui va changer avec cette variante ?
Pour revenir un peu en arrière, les sociétés d'acclimatation dont je vous parlais ont fait des émules, et puis à la fin du 19e, au début du 20e siècle, vous avez des Australiens qui essayent de produire des avocats d'une façon qu'ils puissent être vendus sur le marché. Et au début des années 20 et 30, vous avez vraiment un balbutiement, une naissance d'une micro-industrie de l'avocat en Australie. Et à l'époque, les variétés sont généralement importées de Californie. Ça passe mieux, culturellement c'est beaucoup plus simple. En 1945, vous avez même un journal de Cairns qui publie une recette de guacamole. Donc, ça veut dire que déjà, autour de Cairns, vous aviez de quoi vous approvisionner en avocat, puisque le journal local vous proposait voilà, comment faire une recette de guacamole à la maison. Mais c'est assez exotique et c'est assez élitiste. Il faut bien rappeler que jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, l'Australie demeure britannique. Et la nourriture et les goûts australiens, jusqu'à l'ouverture des frontières aux personnes non blanches, c'est la terminologie de l'époque, dans les années, fin des années 40, début des années 50, jusqu'à ce moment-là, finalement, ce que les Australiens trouvent sur leur plat, ce sont des choses qui, à nous Français, nous paraissent sans goût, du poulet à la gelée, enfin, des choses abominables, et qui donc excluent tout ce qui est un petit peu exotique. Et donc, au moment où l'Australie ouvre ses frontières, hein, fin des années 40, années 50, les années 60 en particulier, vous avez des nouveaux migrants qui arrivent en Australie et qui complexifient les papilles de nos amis australiens qui soudainement découvrent la cuisine italienne, grecque, orientale et commencent à explorer. Et puis dans les années 70, évidemment, la cuisine asiatique où là vous avez un influx migratoire assez important. Et l'avocat fait partie de cette grande, si vous voulez, photographie nationale, où avec l'ouverture des frontières, avec le multiculturalisme, s'ouvrent aussi les papilles. Et c'est à ce moment-là qu'un fruit qui était vu comme assez exclusif et exotique comme l'avocat devient plus populaire. Et en réalité, l'industrie de l'avocat en Australie connaît un réel essor dans les années 70. Hein. Donc ça devient un produit de consommation, certes assez cher à l'époque, mais qu'il devient de plus en plus facile de se procurer partout dans le pays. Et puis il faut voir que les années 70, c'est aussi un moment où l'aviation se massifie, et donc en plus du transport par camion ou par rail, vous pouvez distribuer des avocats dans le pays de façon plus facile. Donc, ça devient accessible, vous pouvez l'acheter partout, et puis bah, les gens s'habituent finalement. Ça devient voilà, un fruit totalement normal, entre guillemets. Mais ce n'est rien comparé aux années 2010, dont on va peut-être parler plus tard.
Oui, on va y venir, bien sûr. Alors, je reviens sur cette période où l'Australie commence à s'ouvrir et à goûter à l'avocat de façon un peu plus massive. Mais il reste quand même un gros problème, c'est que l'avocatier peut effectivement donner des productions très importantes, mais ça reste un arbre qui est globalement assez difficile à faire pousser. Si, comme moi, vous avez déjà tenté de récupérer un noyau et de le mettre dans un verre d'eau, bah, les chances de succès sont quand même assez limitées, mais il y a peut-être des gens qui ont la main plus verte que moi. Et puis, accessoirement, il y a aussi des maladies qui peuvent ruiner complètement des récoltes entières. Et donc, j'ai lu dans un livre très rigolo que je conseille à tous nos auditeurs, qui s'appelle « The Land Before Avocado », l'histoire d'un scientifique, un monsieur qui s'appelle le docteur Ken Pegg, qui travaille dans les années 70 pour le département de l'agriculture du Queensland, et qui demande en gros à ses supérieurs des fonds pour pouvoir chercher un remède à ces maladies qui ravagent les récoltes. C'est un peu, ça revient assez régulièrement, et du coup ça empêche les agricultures de vraiment se lancer dans une production de masse des avocats. Et quand il fait sa demande, donc, ses supérieurs lui rient au nez en lui disant que c'est une activité qui n'a aucun avenir.
Oui, très clairement, c'est encore un moment où voilà, c'est un fruit un peu élitiste et qui n'intéresse pas un grand monde, comme les pommes par exemple, ou les poires, qui sont déjà une agriculture très importante. Mais bon, ça fait partie du développement de l'industrie ou de l'agriculture australienne. Pareil, aujourd'hui, l'Australie est un grand producteur d'amandes et d'olives. C'était pas le cas, respectivement, il y a 40 ans pour les amandes et 20 ans pour l'olive. Donc, il faut aussi remettre la culture de l'avocat dans le développement de l'Australie, mais aussi la mondialisation des productions et des cultures et la spécialisation des pays suivant leur climat. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur Ken Pegg, effectivement, un des problèmes qui se pose avec l'avocat, alors je suis désolé de vous décevoir, Grégory, mais votre tentative avec un noyau n'avait aucune chance de porter des fruits, puisque l'avocatier, en fait, pour donner des fruits, il faut le greffer. comme pas mal d'arbres à noyaux en réalité. Donc vous pourriez faire pousser un avocatier à la maison à partir d'un noyau d'un avocat, mais il est très peu probable que vous ayez des fruits qui soient mangeables.
À vrai dire, j'espérais au moins qu'il fasse des feuilles, mais même ça, je n'ai pas réussi.
Alors là, en revanche, je ne peux plus vous aider. Mais comment dirais-je, voilà, ça fait partie des arbres greffés et donc que l'homme améliore de génération en génération, de greffe en greffe, en constituant des nouvelles espèces ou en en raffinant certaines. Et la question qui se posait effectivement en Australie, c'était la question de la maladie des... ça s'appelle le Phytophthora, c'est une maladie des racines en réalité, qui est liée à la stagnation de l'eau en particulier, qui fait que, pour le faire très simple, les racines pourrissent. Donc en fait, ce que Ken Pegg a étudié, c'est comment travailler l'avocat en Australie, où le travailler, et quelles seraient les meilleures conditions pour implanter une réelle industrie de l'avocat dans le pays. Et donc, il a fait beaucoup de travaux sur les maladies, mais il a aussi mis en place ce que ce milieu-là appelle la PEG wheel, la roue PEG, en fait, qui a une sorte de plan, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture de l'avocat, en disant, voilà, il vous faut quelques éléments principaux. Le premier, c'est un sol drainé. Effectivement, le climat est un peu tropical ou alors où il va y avoir pas mal d'eau, mais il faut que le sol soit drainé et léger, de préférence avec un pH un peu acide, et puis recommandation de certains produits chimiques pour le traitement contre les maladies, et surtout de l'engrais, le calcium en Australie. Hein. La terre australienne est généralement très pauvre comparée aux terres grasses que l'on connaît dans certaines parties de l'Europe, en particulier en France, qui a un sol extrêmement fertile comparé à d'autres voisins européens. Et donc le calcium doit être apporté en supplément pour les avocatiers en Australie. Et donc, à partir du moment où vous avez une communauté scientifique, et bon, c'est quand même porté par Ken Pegg, vous l'avez rappelé, qui vient aider, accompagner les agriculteurs, ça fait que la culture devient possible et se densifie. Et elle se densifie au point que, on va prendre l'année 1997, les Australiens consomment à peu près 20 000 tonnes d'avocats, hein, la plupart produits sur le territoire national. En 2020, les Australiens sont à plus de 100 000 tonnes de consommation, dont à peu près 80% local. Donc c'est un chiffre qui a quintuplé dans la consommation, mais pour que la consommation puisse avoir lieu, il faut la production. Et entre ces années, vous avez une montée en flèche exceptionnelle et qui continue d'ailleurs de l'industrie de l'avocat en Australie.
Merci encore Romain Fati pour ces explications et à très bientôt pour un prochain épisode.
À très bientôt, je vous remercie.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission, émission du samedi 20 avril 2024. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou en partie sur notre site internet sbs.com.au/french. Et pour ce qui est de l'actualité, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site d'actualité sbs.com.au/news. On se retrouve demain, même fréquence, même heure, pour une nouvelle émission 100% en français sur SBS Audio. C'était Marianne Murat au micro. Je vous souhaite une excellente journée. À demain, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.